Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel Univox depuis les studios de Radio Campus Angers. Cette semaine, au programme, on vous présente le mois du genre porté par l'Université d'Angers. Pendant un mois, table ronde, conférences, projections et ateliers, la thématique choisie cette année, l'écoféminisme.
Univox.
Pour en parler avec nous, Jeanne Burgard-Goutal, agrégée de philosophie, une interview réalisée par Alice Breton à l'occasion d'un plateau radio au cœur du mois du genre.
Jeanne Burgard-Goutal, bonjour, bienvenue sur ce plateau.
Bonjour.
Alors comme l'a dit Hugo, vous êtes agrégée de philosophie et spécialiste de l'écoféminisme. C'est votre thème d'étude depuis près de 10 ans maintenant. Vous avez publié à ce propos un essai en 2020 aux éditions L'Échappée, être écoféministe, théorie et pratique. Alors ce mouvement est défini comme un mouvement estimant que l'oppression des femmes et la surexploitation de la nature par les hommes sont liées. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu cette idée? Comment est-ce que certaines féministes sont-elles arrivées à ce rapprochement entre femmes et nature?
Alors moi j'ai pas fait d'études d'histoire mais de philo et du coup je vais mettre en place mes bons réflexes de prof de philo et contester les termes de la question. L'écoféminisme ne parle pas d'oppression des femmes et de la nature par les hommes. La question, c'est l'oppression par un système qu'elles appellent le capitalisme patriarcal. Mais il n'y a pas du tout l'idée d'incriminer les hommes. Et en fait, ça, c'est un contresens qui est très souvent répandu et qui nuit à l'écoféminisme, qui est une simplification qui ne correspond pas au texte et qui n'est pas tenable, en fait. Si on se met à attaquer des catégories d'individus, déjà, c'est inaudible, c'est politiquement contre-productif. Et en plus, c'est une analyse qui est fausse. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Donc ce qui les a intéressés, c'est une analyse structurelle de comment se sont articulés en un seul et même système oppressif le capitalisme et le patriarcat et aussi le colonialisme au cours de la construction de la modernité et du système monde moderne. Et pour continuer à être vraiment chiante, à la fin de votre question, mais en fait, c'est parce que c'est des contresens qui reviennent très souvent. C'est pour ça que je me permets d'insister lourdement. Les écoféministes ne rapprochent pas femme et nature, contrairement à ce que vous avez dit dans votre question. En fait, ce qu'elles cherchent à comprendre, c'est l'articulation entre des systèmes de domination. Donc entre la domination sur les femmes et la domination sur la nature, mais aussi, même si ça ne s'entend pas dans le terme écoféminisme, entre ces deux formes de domination et les dominations de classe, ça sont très inspirées du marxisme, donc cette question de comment s'articule la domination de classe dans le capitalisme avec des dominations de genre, elles n'en font jamais l'économie, et la domination raciale, ou la domination internationale des pays riches sur les pays pauvres. Voilà, donc c'est un peu ça le fil rouge ou fil orange ou fil rose de l'écoféminisme. C'est d'essayer de comprendre comment des systèmes de domination se sont articulés avec au moins la triade de tout féminisme intersectionnel, c'est-à-dire sexe, race, classe ou genre, race, classe, et en ajoutant la question du rapport à la nature.
Pourquoi est-ce que vous ne vous dites pas écoféministe alors que c'est votre sujet d'étude et que vous avez consacré 10 ans de votre vie à l'étude de ce mouvement de pensée?
Ben, en fait, moi, c'est une question qui m'étonne toujours. C'est-à-dire qu'en philo, jusque-là, quand je travaillais sur Nietzsche, personne ne me disait « Mais alors, t'es nietzschéenne ou pas ?» Quand je travaillais sur Hegel ou Rousseau, personne ne m'étiquetait hegelienne, rousseauiste. Et si je travaillais sur le nazisme, personne ne penserait automatiquement que je suis nazie. Enfin, on peut être historien du nazisme. Voilà, Hannah Arendt, elle a écrit sur les totalitarismes. On ne se dit pas « Ah, Hannah Arendt est totalitaire !» Et moi, je croyais qu'avec l'écoféminisme, j'aurais cette liberté qui est vraiment la base en philo. Et en fait, je me suis aperçue, et je pense que peut-être si j'étais un homme, ça serait différent, je sais pas, mais automatiquement, j'étudie l'écoféminisme et je suis une meuf, je suis écoféministe. Et en fait, pas du tout. Il y a à la fois des limites théoriques, un refus aussi de me coller une étiquette. Je ne me sens pas plus convaincue par les analyses écoféministes que par les analyses nietzschéennes, par exemple, pour reprendre cet exemple. Et ça ne veut pas dire que je suis hostile. C'est ça aussi qui était difficile, c'est que dans la sphère universitaire, le fait que j'ai quand même des affinités avec ce mouvement-là et des sympathies à la fois pour les valeurs et les personnes qui portent ce mouvement, ça faisait comme si mon propos était pas objectif et on cherchait à me coincer sur mon positionnement personnel, ce qui m'était jamais arrivé quand je faisais de la recherche sur d'autres sujets. Et dans le milieu militant, le fait que j'ai une sorte de regard critique et que je me pose des questions, donc que je sois ni pour ni contre, paraissait être une sorte de trahison, alors qu'en philo, c'est cette liberté-là que je trouve précieuse, justement.
Alors, on a commencé un petit peu à l'évoquer. Dans l'écoféminisme, la notion de reclaim, c'est-à-dire se réapproprier, est très importante. Alors, comment faire le lien entre nature et le corps? Est-ce que ça veut dire que quand on se réapproprie son corps, ça veut dire qu'on se réapproprie aussi la nature?
Alors, la notion de reclaim, en fait, peut-être pour la situer, on pourrait la rapprocher d'une certaine façon, si on fait le lien entre le féminisme ou l'écoféminisme et d'autres mouvements de lutte contre des oppressions, par exemple la lutte antiraciste, on pourrait rapprocher ça de la question de l'inversion du stigmate, c'est-à-dire le fait de se réapproprier un terme qui a été utilisé comme une insulte, comme queer ou negro. Voilà, pour le mouvement LGBT ou pour le mouvement des Noirs américains. Ou encore, on pourrait rapprocher ça de... j'ai perdu le fil, bon, c'est pas grave. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est que on se situe dans un monde dans lequel il y a des rapports de domination qui vont aussi de pair avec des hiérarchies de valeurs, et que, par exemple, ce qui est genré féminin, même si c'est tout à fait discutable que ça soit le cas, mais voilà, ce qui socialement a cette étiquette-là va être considéré comme inférieur à ce qui est genré masculin. Par exemple, on va se réjouir qu'il y ait des équipes de foot féminines, parce que les trucs de mecs, c'est vraiment bien. Donc quand il y a des femmes qui font des trucs de mecs, qui font du foot, c'est vraiment bien, c'est un progrès. On se réjouira moins qu'il y ait des garçons qui mettent du vernis à ongles et qui font du tricot, parce que ce qui est féminin, c'est quand même pas terrible. Et donc l'idée de reclaim, c'est justement d'inverser ça, ou en tout cas de remettre en question et de dire, en fait, les activités traditionnellement féminines, s'occuper des autres, faire à manger, s'occuper d'une maison, coudre, soigner les bobos, s'occuper des vieux, etc., et qui sont aussi beaucoup d'activités qui permettent une forme d'autonomie. Par exemple, si je sais coudre, j'ai pas besoin d'exploiter des ouvrières chinoises à l'autre bout du monde. Donc il y a aussi une démarche anticapitaliste là-dedans. Et donc le reclaim, c'est se réapproprier toutes ces activités. Avec aussi l'idée de les réinventer. C'est ça qui est important, c'est que reclaim, c'est pas juste je me réapproprie le cliché traditionnel de la féminité, ce qui en fait est un piège patriarcal, mais c'est de dire je me les réapproprie tout en les réinventant pour changer la façon dont ça fonctionne et la façon dont on le fait. Donc quand on reclaim, je sais pas, la broderie par exemple, il s'agit pas de rebroder en mode aliénation aux tâches domestiques, ce qui dans une démarche féministe pourrait pas du tout être désirable. Il y a l'idée qu'on réinvente à la fois la façon de le faire, par exemple, je sais pas, en collectif, qu'on articule ça à une démarche d'émancipation.
Dans l'écoféminisme, il y a aussi des grandes figures, notamment Vandana Shiva, vous en parliez tout à l'heure, d'origine indienne et membre du mouvement SHIPCO, un mouvement qui est né dans les années 70, considéré comme des fois le mouvement pionnier de l'écoféminisme. Ces femmes indiennes défendaient physiquement leur terre en s'enlaçant autour des arbres pour éviter qu'ils ne soient rasés, détruits. Alors, tout un vocabulaire aussi en lien, ça fait penser au poil des femmes, hein, tout simplement. Vandana Shiva, très active dans la lutte écologique, elle critique fortement aussi le capitalisme et défend une agriculture paysanne traditionnelle. C'est elle qui a proclamé aussi « L'homme ne possède ni la terre, ni la femme, ni la terre ». Est-ce que ça veut dire que le féminisme est forcément anticapitaliste?
Alors, l'écoféminisme, en tout cas, oui. C'est une branche du féminisme qui est foncièrement et nécessairement anticapitaliste et qui vient de lutte contre les politiques de développement imposées aux pays du Sud, qui vient aussi de lutte anti-nucléaire, d'un terreau contestataire très... aux États-Unis, c'est vraiment très lié à la culture hippie. Donc voilà, il y a vraiment ce côté anticapitaliste très fort. Après, il y a d'autres formes de féminisme qui, justement, sont... en contradiction avec l'écoféminisme, qu'on appelle le féminisme libéral, qui sont compatibles avec le capitalisme. Et c'est les plus connus, en fait. Très souvent, quand on ne connaît pas très bien l'ensemble de la pensée féministe, on croit que ce que veulent les féministes... Alors, soit on croit que c'est des folles qui veulent... castrer les hommes ou je sais pas quoi. Enfin, ces clichés, bizarrement, même s'ils sont complètement idiots, ils ont la vie dure. Ou soit, si on est un peu plus renseigné, on peut se dire, en fait, c'est quelque chose qui vise l'égalité salariale ou voilà, un peu plus d'égalité pour les femmes dans le système tel qu'il fonctionne. Mais en fait, la profondeur du mouvement féministe, et c'est ça qui fait que c'est hyper intéressant philosophiquement et politiquement, c'est pas juste ce petit truc réformiste ou pour un petit peu plus d'égalité, il y a aussi toute l'ampleur du féminisme anticapitaliste. L'écoféminisme en fait clairement partie.
Justement aussi, il y a eu beaucoup de critiques donc, sur l'écoféminisme, parce que toutes les féministes ne sont pas en accord avec ce mouvement. Parfois, on peut le qualifier d'essentialiste, c'est-à-dire biologisant les caractéristiques dites féminines. Le terme, déjà, pour rappeler aussi, il est apparu en 1974 dans le manifeste de Françoise Daubonne, Le féminisme ou la mort. Et déjà, elle argumentait contre cette idée d'idéologie essentialiste en expliquant que les écoféministes se sont réappropriés ce soi-disant défaut de sensibilité envers la nature comme étant une qualité plutôt. Comme c'est assez technique, est-ce que vous pouvez nous repréciser un petit peu les critiques qui sont faites sur l'écoféminisme ?
Oui, alors sur cette critique d'essentialisme qui effectivement est la critique qui revient tout le temps, là aussi ce qui est un peu déprimant sur le fonctionnement du débat public, c'est que c'est vraiment une critique qui montre que les textes n'ont pas été lus. Donc essentialiste, ça veut dire que ça, l'écoféminisme ramènerait les femmes à une essence éternelle, immuable, faite d'un certain nombre de caractéristiques. Par exemple, elles sont douces, elles sont faibles, elles sont bavardes, elles sont vulnérables, elles sont tendres, elles savent s'occuper des autres. Donc ça peut être des caractéristiques positives ou négatives, mais voilà, l'essentialisme, ça serait de dire il y a cette essence féminine. Et ça, en fait, on reproche souvent à l'écoféminisme ce défaut, alors qu'en fait, il suffit de lire les textes pour voir que c'est faux, que l'énorme majorité des écoféministes, elles ont défendu des positions constructivistes, c'est-à-dire qu'elles montrent que la féminité est une construction sociale et culturelle, et elles montrent comment historiquement ça s'est fait, comment d'une culture à l'autre c'est différent, etc. Donc c'est étonnant de voir là aussi cette attaque-là qui dure, alors qu'elle est complètement à côté de la plaque. Une autre attaque qui est très récurrente, en particulier en France, c'est autour de la spiritualité qu'on évoquait tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a toute une part de l'écoféminisme, en particulier américain et aussi indien chez Vandana Shiva. Elle, ça la dérange pas du tout de parler de la Shakti, voilà, d'utiliser des concepts liés aux mythologies ou aux spiritualités indiennes. Et aux États-Unis, chez Starhawk par exemple, elle parle de la déesse, elle fait des rituels pour célébrer les solstices, les équinoxes, etc. Et en fait, il y a vraiment une démarche qui, si on fait l'effort de s'y intéresser, est vraiment complexe et pertinente, mais souvent c'est utilisé pour dire ouais, ok, bon, c'est un truc folklorique ou c'est un peu farfelu, et ça permet d'expédier cette question sans vraiment se pencher sur la question. Alors qu'il y a quand même beaucoup d'autres mouvements écologistes aujourd'hui qui parlent d'éco-spiritualité ou qui disent qu'on peut pas transformer profondément le rapport à la nature sans avoir un rapport à la nature en tant que plus grand que soi. Et elles essayent justement de jouer ces spiritualités de la terre-mère contre la spiritualité de Dieu le Père. Mais là aussi, c'est une démarche qui est souvent... on a l'impression que les gens n'ont pas envie vraiment de creuser et de s'intéresser, mais plutôt de critiquer immédiatement sans même comprendre de quoi il s'agit.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Le mois du genre a été également l'occasion pour l'Université d'Angers d'annoncer la création du premier musée des féminismes de France. Christine Barr, enseignante-chercheuse, membre de l'Association pour la préfiguration d'un musée des féminismes et autrice du livre à succès Une histoire politique du pantalon, nous présente ce musée qui ouvrira ses portes à l'horizon 2027.
Univox.
Christine Barr, bonsoir.
Bonsoir.
À Angers, c'est le plus gros fonds d'archives du féminisme de France. Est-ce que ce musée, c'est l'occasion aussi de mettre en valeur ce qui existe déjà, ou bien l'idée, c'est d'amener aussi des œuvres qui viennent de l'extérieur ?
Alors, on va avoir les deux. On va valoriser les 80 fonds d'archives de militantes et d'associations féministes qu'on a déjà à Angers. On en a 4 ou 5 de plus chaque année. Donc, au moment de la création du musée, on aura une centaine de fonds d'archives féministes. Mais pour réaliser des expositions, on va faire venir d'autres structures, d'ailleurs, d'autres musées, de bibliothèques, des œuvres, des documents qu'on aura besoin d'exposer. Et puis, on a aussi l'ambition de collecte, parce qu'on envisage un musée avec une participation de diverses personnes intéressées, des collectes de photos sur les collages féministes, des collectes de badges ou de t-shirts ou de banderoles, des objets, puisque dans un musée, on montre des objets authentiques. Donc ça nous paraît très important aussi qu'on documente mieux le féminisme contemporain, enfin disons des 25 dernières années, qu'on appelle le féminisme de la troisième vague. Et là, ça demande la participation de beaucoup de monde en fait, hein, de personnes par exemple qui aiment prendre des photos et qui vont nous envoyer une photo des collages féministes dans telle ou telle ville de France. Voilà, avec
tout ce qui existe sur les réseaux sociaux fait partie de cet outil pour documenter cette histoire du féminisme, de cette troisième vague du féminisme.
Oui, c'est une bonne question parce que une des caractéristiques du féminisme de la troisième vague, c'est qu'il est aussi numérique, fortement numérique, nativement numérique. Donc comment exposer dans un musée des productions numériques? On va devoir réfléchir sur le sujet.
Ceci étant dit, vous avez participé à l'organisation de l'exposition parisienne citoyenne au musée Carnavalet à Paris, exposition dans laquelle on pouvait voir des œuvres numériques puisqu'il y avait déjà des extraits de films, il y avait déjà des documents numériques qui existaient. C'est encore différent là?
Alors, des numériques, pas tout à fait. Enfin, c'est des films, des vidéos qu'on a pu montrer. On a travaillé avec l'INA aussi. On aura certainement pour le Musée des Féminismes un partenariat avec l'INA, donc les archives de la télévision. Mais par numérique, j'entendais les réseaux sociaux, les sites internet. Comment on montre ça dans un musée? Il faudra réfléchir. De toute façon, on va être aidé par une scénographe professionnelle.
Ça fait 20 ans. Que ce projet est sur les rails. Avant, donc il y a 20 ans, vous aviez déjà eu une idée d'un musée du féminisme aussi. D'où vient la jeunesse de ce projet pour vous dans votre imaginaire?
Dans ma tête, il y avait eu un peu en même temps la création de l'association Archives du Féminisme pour qu'on puisse avoir un lieu où préserver les archives, parce que ça n'existait pas. La bibliothèque Marguerite Durand était saturée à Paris, et donc on voyait partir des fonds d'archives français à l'étranger, ou des archives disparaître, il n'y avait aucune dynamique collective. Donc on a structuré ça, on a créé un nouveau lieu d'accueil à la BU de Belbeil, à Angers. Alors il y a eu des discussions, il y en a qui auraient préféré Paris, et bon, bref, c'était à Angers que ça a été possible en tout cas, ce qui est génial. Pour moi, en tant qu'Angevine. Et puis aussi parce que ça fonctionne très bien et que c'est dans l'intérêt collectif. Voilà. Et au moment où on a créé cette association, on a tout de suite pensé transmission. Il n'y avait pas de lieu pour les archives, mais il n'y avait pas non plus de musée en France sur l'histoire des femmes. Donc à l'époque, on pensait un musée sur l'histoire des femmes en général. Toujours dans l'idée de transmettre les acquis de la recherche à tous les publics et d'une manière vivante, avec des visites de classe, et puis en créant le contact direct avec des œuvres authentiques. C'est quand même ça l'émotion qu'on ressent dans les musées, parce que les livres, les conférences, c'est de la médiation. Mais quand on est directement face à l'archive ou face à un tableau, on ressent quelque chose d'assez fort. Et donc, moi, je rêvais de ça pour le féminisme. Donc, j'ai travaillé un an complet sur le projet, mais en créant, il y avait un collectif. Mais malheureusement, la ville de Paris, après avoir accepté le projet, n'y a pas donné suite et sans explication. Donc, c'est à la suite de cet échec qu'on a rebondi avec la création de Muséa, un musée virtuel sur l'histoire des femmes et du genre, qui a été inauguré en 2004 et qui existe encore. C'est une production de l'Université d'Angers.
Vous avez lancé un appel à participation, un financement, 21 000 euros qui ont été collectés pour une œuvre, Maria Vérone à la Tribune. Ça a eu un écho dans la presse nationale, il y a eu une dépêche AFP, un article dans Le Monde, vous avez été contacté par différents médias. C'est important pour vous aussi d'acquérir ces œuvres qui illustrent le fait que le féminisme existe depuis des siècles.
Oui, alors là, c'est un tableau de 1910 qui montre un meeting pour le droit de vote des femmes à Paris. Et on a réalisé que c'était le seul tableau, en fait, illustrant l'histoire du féminisme à cette époque, parce qu'on a des caricatures, ça beaucoup, des dessins, des photos, mais un tableau de facture classique par un peintre académique, huile sur toile, on n'avait pas, c'est le seul peintre qui a eu l'idée de peindre un tableau dans sa carrière sur un meeting pour le droit de vote des femmes. Donc ça me permet aussi de dire que si on ne fait pas des efforts, on n'a pas beaucoup d'iconographie, on n'a pas beaucoup d'images sur l'histoire des féminismes. Et il faut être très vigilant par rapport à ça. Donc là, grâce au crowdfunding, on a pu... avec plus de 200 contributrices et contributeurs, acheter ce tableau qui sinon aurait été acheté tôt ou tard par quelqu'un, on ne sait pas qui, mais qui aurait gardé le tableau chez lui, chez elle, ou peut-être que ce serait parti dans une université américaine. En tout cas, on n'aurait plus le tableau, à notre disposition pour le montrer au public.
Quand vous avez retrouvé ce tableau, en plus, il avait un autre nom, enfin, son sens avait été complètement dévoyé.
Oui, c'était l'histoire du tableau s'était perdue et s'était vendu à Drouot sous le titre « Scène dans un café parisien ». Et donc, y a un acheteur qui a reconnu une carte postale qui reproduisait ce tableau. En fait, grâce à cette carte postale, il a reconnu la scène et il a acheté le tableau il y a quelques années. C'est à lui que nous allons l'acheter.
Ce musée des féminismes, c'est le seul musée qui va traiter de l'histoire des féminismes en France. Par contre, à l'international, la situation est quelque peu différente. Il en existe plusieurs. Pourquoi est-ce que la France avait tant de retard ?
Alors ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Et je crois que c'est pas facile de répondre. Déjà, un désintérêt des pouvoirs publics. Hein. J'ai donné l'exemple de la ville de Paris qui a dit oui, puis qui n'a plus rien fait. Donc, si ça ne s'impose pas plus au niveau des pouvoirs publics, c'est peut-être parce qu'il y a une forme d'antiféminisme larvé, d'indifférence dans les milieux intellectuels, dans les milieux politiques. Il y a des pays où le féminisme est beaucoup plus fort. Hein. C'est pas un scoop. La France n'a jamais été à la pointe du combat féministe. Ce sont les États-Unis, l'Angleterre, avec les suffragettes, enfin, depuis longtemps, les pays de l'Europe du Nord. Donc, bon, là, il y a cette forme d'antiféminisme. Je pense qu'en France aussi, on a tendance à beaucoup se reposer sur l'État, à beaucoup attendre de l'État, dans un pays extrêmement centralisé. Mais dans les pays, justement, où il existe des musées de femmes, ce n'est pas l'État. C'est pas l'État, c'est des initiatives militantes, régionales. Par exemple, en Allemagne, où il y a une autre organisation fédérale, eh bien, c'est vraiment au niveau des Länder, et puis souvent des associations, en fait, tout simplement. Donc, en France, peut-être que... On a trop attendu d'une initiative de l'État qui n'est pas venue. Et là, nous, on montre qu'avec une association, avec une université, puis finalement, avec un soutien de l'État qui est en train de venir, la démarche peut être différente. Et qu'on a aussi à notre disposition les universités qui ont une mission culturelle à remplir.
On parle d'un musée des féminismes depuis 1926, vous en parliez tout à l'heure à l'occasion de cette présentation, avec Marie-Louise Bouglé. C'est une envie qui est latente quand même, c'est-à-dire les féministes et les femmes de manière générale attendaient ce musée.
On a besoin dans les mouvements sociopolitiques de musées, effectivement. Il y a par exemple un musée de l'immigration qui a fini par voir le jour après une genèse très compliquée. Il y a des musées de la résistance. Ces musées, ils ont une fonction culturelle, mais aussi citoyenne. Il y a des valeurs qui passent à travers ces musées. Une mémoire collective aussi. C'est stratégiquement pour les mouvements féministes, mais c'est très important d'avoir au moins un musée qui est là pour parler de l'histoire de ces mouvements, de ces conquêtes, de la difficulté à conquérir certains droits. Ça fait partie aussi de notre éducation, de la citoyenneté, de donner avoir ces luttes-là. Par exemple, on sait que dans les collèges et les lycées, il est très peu question du féminisme. Les programmes scolaires ne changent pas. Je suis sûre qu'on aura plein de demandes de visite de groupes de scolaires. Parce qu'il y a un manque. Il y a un manque dans les programmes, il y a un manque dans les manuels. Il y a beaucoup de profs qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour en parler, qui trouvent le sujet peut-être pas évident, clivant. Il y aura la visite au musée qui sera possible pour eux.
Le féminisme, évidemment, c'est une forme de militantisme. Est-ce que la démarche autour de la réflexion de ce musée est militante ?
Alors, elle est à la militante, oui, tout en restant indépendante de collectifs militants. On est animé par un esprit féministe. On espère bien changer un peu la société avec les activités du musée et le programme culturel qui accompagnera les expositions. On ne fait pas ça sans conscience militante. Maintenant, il ne faudrait pas que le mot soit mal compris. Ce n'est pas un militantisme sectaire. C'est au contraire très ouvert à toute la diversité des féminismes. Mais oui, on estime qu'on est dans un monde où il faut s'engager. Et créer un musée des féminismes, c'est une forme d'engagement. On va dans le mur si on ne montre pas aussi qu'il est nécessaire de s'engager pour le bien commun, pour le progrès social, pour une éducation qui soit davantage inclusive, avec plus de mixité. Voilà, tous ces enjeux-là, on en est très conscient. Donc c'est militant, sans sectarisme, sans intolérance. Et c'est aussi scientifique, parce qu'il faut être capable aussi de le faire. Et dans la FEMUSE, on a une complémentarité de différents savoir-faire. Conservatrice de musée, par exemple, historienne, magistrate.
Dernière question, l'inauguration du musée 2027 à l'occasion de la fin des travaux de la bibliothèque universitaire de Belbeil. D'ici là, au 1er septembre 2024, il y aura une première exposition temporaire, celle-là, dont vous avez révélé tout à l'heure la thématique. Les femmes sont dans la rue.
Oui, donc on aura jusqu'en 2027 deux expositions temporaires. Après, on gardera un fonctionnement d'exposition temporaire, une par an. Donc la première expo, Les femmes sont dans la rue, sera réalisée par Ludivine Bantini. Et ça nous a semblé être un thème assez large, populaire, les usages de la rue. En France, il y a beaucoup à dire. Ça n'a pas été si facile pour les féministes d'accéder au droit de manifester dans la rue. C'était plutôt un répertoire d'action masculin. Et là, il y a eu une conquête de la rue par les féministes. Et sans manifestation de rue, beaucoup de luttes n'auraient pas pu aboutir. Par exemple, le droit à l'avortement, il a été acquis grâce à des manifestations de rue. Et puis, les femmes sont dans la rue et pas les féministes sont dans la rue, parce qu'on veut que ce soit large. Il y a différentes organisations de femmes qui ne se sentent pas forcément féministes, mais dont les luttes contribuent quand même à l'émancipation des femmes. Même quand elles restent dans un rôle assez traditionnel. Je pense par exemple aux ménagères qui manifestaient contre la vie chère pendant la guerre de 14-18 et puis juste après la guerre de 14-18 à Angers, par exemple. Moi, j'aimerais bien qu'on les fasse un petit peu exister. C'est très peu connu.
Tout ça, évidemment, au Musée des Féminismes de l'Université d'Angers. Merci beaucoup, Christine Barre, d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de Radio Campus. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette Univox spéciale Mois du genre de l'Université d'Angers. C'était Hugo de Radio Campus Angers. À très bientôt. Restez à l'écoute de vos Radio Campus respectifs et n'oubliez jamais, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde. Univox.